Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit, là.
Nous sommes le mardi 9 mars 2021, en pleine semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette maladie de l'utérus qui provoque des douleurs très intenses? Peut-être que non, et ce serait un problème, car l'endométriose touche une femme sur 10 en France. Peut-être que oui, vous connaissez. Et c'est sans doute en bonne partie grâce à l'action de celles qui se sont mobilisées pour la faire connaître, pour sensibiliser le corps médical et les femmes à l'existence de cette maladie. Elles, ce sont les membres de l'association EndoFrance, créée en 2001, et qui militent pour faire sortir la maladie de l'ombre. Aujourd'hui dans Activiste, vous allez pouvoir écouter la présidente de l'association EndoFrance depuis 2012, Yasmine Kando. Bonjour Yasmine. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, me dire un peu d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie actuellement?
Bonjour Clémence, bonjour à tous. Alors, effectivement, je suis Yasmine Kando, présidente de l'association EndoFrance. Dans la vie, je suis mariée, j'ai eu le bonheur d'avoir deux garçons et je suis responsable des relations extérieures dans une société qui fait de la formation pour les entreprises, notamment, je simplifie parce que c'est assez complexe, je travaille à mi-temps et tout le reste du temps, bah, je donne pour EndoFrance.
Alors justement, comment et pourquoi tu as rejoint l'association EndoFrance? C'était quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux me raconter ce parcours?
Alors effectivement, je me suis engagée parce que moi-même je suis touchée par l'endométriose. J'ai eu un très très long parcours difficile avec cette maladie. Et bah, c'est une maladie tellement intime quand on choisit de s'engager pour cette cause, on y va avec ses tripes, hein, c'est le cas de le dire. Donc voilà, je me suis engagée. J'ai d'abord eu besoin d'EndoFrance quand mon parcours est devenu très très difficile. EndoFrance m'a énormément apporté, m'a soutenue. Et c'est à partir de là que je me suis dit que moi aussi, je me devais de donner ce que j'avais reçu à d'autres femmes.
Alors j'ai deux questions. La première, est-ce que tu peux expliquer brièvement ce qu'est l'endométriose pour des gens qui n'en auraient jamais entendu parler? Et la deuxième, c'est que tu viens de parler de parcours difficile. En quoi c'est difficile d'obtenir un diagnostic sur une maladie qui est aussi handicapante?
Alors pour répondre à ta première question, l'endométriose de façon simple, et forcément ça oblige à ne pas tout dire de ce qu'on sait de cette maladie. C'est une maladie qui débute avec les règles. Chaque mois, quand on a nos règles, évidemment, on perd du sang et des petits morceaux d'endomètre, puisque c'est la muqueuse utérine qui se détache, puisqu'elle n'a pas reçu d'embryon. Donc, elle a gonflé pendant le cycle, justement, pour pouvoir aider un embryon à s'accrocher. Et quand il n'y a pas eu fécondation, elle se détache parce qu'elle ne sert à rien. Et c'est ça qui forme les règles. L'endométriose, c'est quand on retrouve des cellules ou du tissu endométrial en dehors de l'utérus. Et concrètement, en dehors de l'utérus, c'est dans le ventre. Et ça arrive chez toutes les femmes. Mais le système immunitaire est bien fait et à la fin du cycle, il envoie des petites cellules pour nettoyer ce qui n'est pas à sa place. Sauf chez 10% des femmes. Ce système immunitaire ne fonctionne pas ou ne répond pas comme il faudrait. Et du coup, Les petites cellules qui sont là, au lieu d'être dans l'utérus, elles vont continuer à vivre et elles vont chaque mois réagir aux hormones. Et quand on va avoir nos règles et saigner, et ces petites cellules-là dans le ventre, elles vont saigner aussi. Et c'est ça qui va provoquer des douleurs, qui va provoquer des adhérences entre les organes, et surtout des nodules, des kystes qui, cycle après cycle, vont grossir, vont prendre de plus en plus de place, être de plus en plus douloureuses, et devenir effectivement handicapantes si on ne met pas, ce qu'il faut en place pour arrêter le processus. Ça, c'est une façon très très simplifiée d'expliquer l'endométriose. On ne sait pas aujourd'hui exactement quelle en est la cause. Il y a plusieurs théories qui sont mises en avant, mais le propre d'une théorie, justement, c'est de rester au stade de l'hypothèse. On n'a aucune certitude sur la cause exacte de l'endométriose. C'est très complexe et même les membres de la communauté scientifique internationale ne savent pas, il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur le sujet. En tout cas, celle qui explique 80% des lésions d'endométriose, c'est celle que j'ai expliquée, donc le fait d'avoir un peu de reflux dans le ventre, voilà. Et pourquoi le parcours est si difficile? Pourquoi il faut autant de temps pour être diagnostiqué? D'abord parce que pendant longtemps, on a, je pense, banalisé la douleur d'une femme pendant ses règles. Je pense qu'on s'est tout entendu dire à un moment ou à un autre, t'as tes règles, c'est normal d'avoir mal au ventre, voilà. Sauf qu'on ne mesure pas là, entre guillemets, la normalité de la douleur. À partir du moment où une douleur gêne dans l'activité quotidienne, empêche de se lever, empêche d'aller au travail, empêche d'aller au lycée pour les plus jeunes, elle n'est pas normale. Et ça, ça a été difficile de le faire entendre, je pense. Ensuite, c'est une maladie qui touche l'intime avec des symptômes qui ne sont absolument pas glamour. Donc, c'est pas très, très agréable de discuter de ça. C'est pas facile de dire là, j'ai des troubles urinaires, des troubles digestifs. Avec mon copain, les rapports, c'est pas possible. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui relèvent de l'intime. Ça ne se dit pas. C'est complexe. Et puis, peut-être le point le plus important, c'est la méconnaissance du corps médical sur cette maladie. Les médecins généralistes entendent parler d'endométriose 20 minutes sur cette année. Pas étonnant qu'ils passent à côté quand quelqu'un leur dit « j'ai mal au ventre pendant mes règles ». Notre association existe depuis 2001. Elle milite depuis 2005 auprès des pouvoirs publics justement pour faire entendre cette problématique de la formation des médecins. En septembre 2020, un décret est enfin paru intégrant l'endométriose dans le parcours des études médicales de second cycle. Il a fallu 15 ans. 15 ans et des demandes répétées et toujours la même demande, à savoir adapter la formation initiale des médecins. Voilà. Donc tout ça contribue au retard du diagnostic.
Comment tu expliques ça? Comment tu expliques qu'une maladie qui touche une femme sur 10 soit aussi mal connue du corps médical? Je peux le comprendre pour des maladies orphelines, pour des pathologies rares, mais une femme sur 10, c'est pas une maladie rare?
Ah non, c'est énorme. Et encore, une femme sur 10, c'est une femme sur 10 diagnostiquée. Donc ça voudrait dire que potentiellement, il y a plus de femmes qui en sont atteintes, mais qui ne le savent pas encore. Donc ce chiffre, il est minimisé en fait. Mais comment l'expliquer? C'est un petit peu le mix de toutes les raisons que j'ai données avant, cette méconnaissance, le fait surtout, parce que c'est vrai, il faut le redire, l'endométriose, c'est une maladie bénigne. Maladie bénigne au sens médical du terme, c'est-à-dire qu'elle ne va pas impliquer le pronostic vital. Ça n'est pas un cancer, ça n'est pas une maladie évolutive dans le sens dégénérescente comme certaines maladies. C'est peut-être ça qui fait que l'endométriose est restée le parent pauvre de la médecine. On avait catalogué cela comme une maladie de femme, et les maladies de femmes... on a longtemps considéré que les femmes étaient des hystériques. Hein. Donc je pense que c'est un petit peu tout ça.
Oui, j'allais poser la question, sans traiter de sexiste misogyne l'ensemble du corps médical, parce que c'est pas ce que je pense. Je pense que les individus sont multiples, complexes dans leur construction, dans leur histoire. Je suis pas en train de dire que tous les médecins sont sexistes, mais je suis en train de poser la question de est-ce que le sexisme de la société, le fait qu'on vit dans une société patriarcale, est-ce que ça, c'est un facteur d'explication, une raison pour laquelle les maladies de femmes, comme l'endométriose, sont aussi mal connues et aussi mal soutenu sur du point de vue de la recherche.
Ouais, je pense que ça prend une part importante en tout cas dans l'histoire de l'endométriose. Effectivement, le fait que c'est une pathologie de femmes et que les médecins majoritairement, les gynécologues majoritairement sont masculins. Il y a très peu de femmes qui traitent l'endométriose, enfin de plus en plus heureusement, mais parmi les chirurgiens experts, on trouve quasiment que des hommes. C'est vrai que ça pose question. La place de la femme dans la société aussi. Hein, pendant longtemps, l'endométriose, c'est pas une maladie d'aujourd'hui, c'est une maladie qui... La première fois qu'on en a parlé, c'était en 1860.
Mais oui! Mais ça, j'ai écouté une émission que tu avais faite sur Europe 1, je crois, il y a 2 ans, avec notamment le docteur Petit chez Wendy Bouchard sur Europe 1. Très bonne émission, au passage. Et le docteur Petit disait que, oui, ça fait 150 ans qu'on connaît cette maladie. Mais pourquoi ça fait à peine 10 ans que j'en ai entendu parler? Et c'est pas faute de m'intéresser au sujet féminin.
Oui. Ça, c'est le grand mystère, effectivement. Une maladie découverte il y a 150 ans, et aujourd'hui, on a l'impression qu'on en est au balbutiement pour sa prise en charge. Et voilà. Alors, la place de la femme dans la société, ça interroge ça. Ça interroge le regard qu'on portait sur la femme et sur sa... Je vais mettre de gros guillemets, sa liberté d'expression. Mais une femme, on ne lui demandait pas de dire comment elle se sentait à l'époque. Hein. Dans les années 1800, on lui demandait juste de faire les tâches ménagères, les tâches au champ, de s'occuper, de faire des enfants très jeunes, de s'en occuper. Et puis la femme mourait très jeune. Et puis entre-temps, si elle avait mal, elle ne le disait surtout pas parce que ce n'est pas du tout ce qu'on lui demandait. Donc voilà, tout ça, l'importance que prend la femme, même le droit de vote, c'est pas si vieux que ça, hein, finalement, quand on se retourne, le droit de vote pour les femmes, voilà. Donc la place de la femme est interrogée. Le fait qu'effectivement, la médecine, la société patriarcale, la médecine masculine, le fait que seuls les hommes pouvaient peut-être faire des études à l'époque, etc., on a transbahuté ça d'année en année, de siècle en siècle, et aujourd'hui, les femmes ont cette possibilité d'être l'égale de l'homme, mais voilà, il y a un tel retard que on en pâtit aussi.
Je voudrais parler aussi du rapport à la douleur, parce que c'est une maladie dont les symptômes sont très très douloureux. Et en fait, je voulais savoir s'il y avait aussi une dimension religieuse, alors culturelle, religieuse, hein, toute religion confondue évidemment, mais moi j'ai été éduquée dans un contexte très catholique, et tu enfanteras dans la douleur, je veux dire, Ève, en croquant la pomme, a chassé l'homme du paradis, donc en fait... Il y a aussi toute cette dimension de toute façon, c'est normal de souffrir, c'est normal d'avoir mal, et arrête de te plaindre, et ça va passer, prends une bouillotte et un thé, quoi. Est-ce qu'il y a aussi cette culture-là qui contribue à la méconnaissance de la maladie et à la difficulté de diagnostic ?
C'est exactement ça. J'ai écrit un livre avec le professeur Chaperon qui s'appelle « Idées reçues sur l'endométriose ». Et j'ai écrit un chapitre notamment qui s'appelle « Le quotidien avec une maladie chronique pour les femmes, c'est difficile ». Et effectivement, je commence en disant « C'est comme si le vieil adage religieux « Tu enfanteras dans la douleur » se transformait à chaque mois, tu souffriras et tu devras te taire, quoi. C'est exactement ça. Il y a quelque chose de culturel, il y a quelque chose dans l'inconscient collectif, comme je le disais tout à l'heure, de la douleur, c'est normal quand tu es une femme. Non, absolument pas. Il y a aussi beaucoup de culture, l'aspect culturel. Quand on prend les différentes histoires de femmes, on se rend compte aussi qu'elles disent tous... chez moi, dans ma famille, dire qu'on n'était pas bien ou dire qu'on souffrait à ce moment-là, ça ne se disait pas. Il y a des cultures, par exemple, où la femme est considérée impure quand elle a ses règles. Donc, tout ce qui va avec, bien évidemment, on ne peut pas l'entendre. Moi, je suis réunionnaise et dans ma culture, les femmes supportent beaucoup sans rien dire non plus. Donc, moi, j'ai toujours été élevée aussi... avec ma mère qui me disait tu sais c'est normal, j'étais comme toi et ça passera plus tard, c'est normal, voilà. Donc moi à partir du moment où on me disait c'est normal, je m'inquiétais pas, hein. Voilà, hein, c'est comme ça et c'est tout, et effectivement c'est ton fardeau de femme, porte-le, quoi, sois-en fière, voilà.
Et Et dans le même temps, je sais qu'il y a donc il y a toute cette pression culturelle extérieure. Et est-ce qu'on n'a pas aussi un conditionnement individuel je vais dire nous les femmes en général. Mais je me pose la question parce que donc j'ai écouté pas mal d'émissions autour de l'endométriose parce que j'ai des problèmes de règles très très douloureuses. Donc je suis aussi dans un parcours de recherche en ce moment de diagnostic. Et en fait, quand j'écoute les émissions, je me dis ah non, mais moi j'ai pas mal à ce point-là. Enfin, j'ai mal au point de disjoncter et de faire n'importe quoi et de pas savoir ce que je suis en train de faire. Mais moi, j'ai pas la sensation de poignard qui me transperce, donc ça va. Et en fait, je me reprends toute seule en me disant d'où je compare ma douleur à d'autres témoignages plutôt que de la prendre en compte dans l'absolu. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, totalement. En fait, effectivement, la douleur, c'est très subjectif et c'est très individuel aussi. Hein. Chacune... Alors, déjà, il y a une multitude de symptômes dans l'endométriose. Et puis, il y a quand même quelques endométrioses qui vont se développer de façon... on appelle ça asymptomatique, c'est-à-dire sans le moindre symptôme douloureux, ou très peu. Et les femmes souvent découvrent qu'elles ont de l'endométriose, malheureusement, quand elles n'arrivent pas à concevoir un enfant. Mais voilà, chaque cas est unique dans l'endométriose. Certaines formes sont superficielles, qui peuvent être extrêmement douloureuses. Certaines formes plus profondes, curieusement, vont être moins douloureuses. Et puis, il y a des formes... Dans 70% des cas, c'est quand même la douleur qui est le symptôme d'appel. Mais c'est très subjectif, la douleur. Et on a une... Comment dire une... Alors, les médecins vont dire qu'on a une hypersensibilisation qui fait qu'on ressent la moindre petite douleur de façon multipliée. Moi, j'ai envie de dire, en écoutant quand même toutes ces femmes et en jugeant par rapport à mon propre parcours, qu'on a développé une tolérance à la douleur qui est assez incroyable. Ça, je pense que c'est une réalité. Je dis souvent, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu le grand bonheur, malgré mon endométriose, d'avoir deux grossesses et deux garçons. J'ai accouché dans les deux cas sans péridurale. Et je dis toujours qu'une crise d'endométriose me faisait plus souffrir qu'un accouchement sans péridurale. C'est pour donner une idée quand même de l'intensité de la douleur. Mais voilà. Mais en tout cas, oui, la douleur est subjective, elle ne doit pas être comparée. Et chacune a sa propre tolérance, bien sûr. Et faut surtout pas comparer.
Donc tu es présidente de l'association EndoFrance depuis 2012. Et tu l'as rejoint à quelle date ? Ça fait combien de temps que tu es engagée dans cette association ?
Alors, je l'ai rejointe en 2006. J'ai d'abord été ce qu'on appelle bénévole régionale représentante EndoFrance, en fait, où j'organisais des actions de soutien et d'information pour les personnes de ma région. Et puis, en 2012, j'ai pris la présidence. Mais voilà, c'est depuis 2006 que je suis engagée dans cette association.
J'aimerais savoir un petit peu quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marquée au cours de ton engagement associatif, des parcours de femmes que t'as rencontrées via cette association, que l'association a aidé. Est-ce que dans toutes ces années d'engagement, tu penses là spontanément à quelques rencontres en particulier qui t'ont marquée plus que d'autres ?
Oui. Il y a des femmes qui m'ont émue particulièrement dans leur parcours, d'abord parce qu'il a été très très difficile, mais surtout parce qu'elles en ont développé une force de caractère, un positivisme face à la vie. Elles ont des conséquences invalidantes, vraiment, vraiment invalidantes sur leur quotidien, par exemple une vessie qui ne fonctionne plus du tout. Voilà, des choses très lourdes, ou le fait de savoir que jamais elles ne pourront donner la vie. Et ces femmes-là sont des battantes, vraiment. Et ça m'émeut vraiment de parler d'elles, parce que voilà, chaque femme que j'ai pu écouter, que j'ai pu soutenir, que j'ai pu orienter, aider, m'a renvoyé une telle image de force que ça m'a nourrie aussi.
Est-ce qu'il y a une typologie de femmes qui sont atteintes d'endométriose, une moyenne d'âge, une classe sociale, une origine ethnique, enfin je ne sais pas, est-ce qu'il y a, Est-ce qu'il y a un profil type de la patiente ?
Alors, pendant longtemps, on l'a cru, les études disaient que les femmes grandes, minces, de type caucasien, avaient plus de risques d'être atteintes d'endométriose. Les femmes aussi d'une classe, d'une catégorie socio-professionnelle élevée.
Attends, on a cru que les gens qui étaient d'une classe socio-professionnelle élevée avaient plus de chances d'être atteints d'une maladie qu'on ne diagnostiquait pas.
Non, mais
c'est pas le rapport avec le prix de l'échographie, le prix du parcours de soins.
C'est juste, mais voilà, c'est ça. On fait dire n'importe quoi aux chiffres, en fait, hein. Mais c'est juste parce que ce sont les femmes qui sont dans des catégories socio-professionnelles qui ont les moyens d'aller se faire diagnostiquer, de faire des recherches, et de finir par trouver qu'elles sont atteintes d'endométriose. Mais c'est juste ça. Une femme sur 10, je pense que ça touche tout le monde et pas en fonction de la CSP ou autre chose. Il y a aussi eu des études qui sont parues sur des îles comme les Antilles ou la Réunion ou d'autres, qui utilisent beaucoup de pesticides, par exemple par rapport aux cultures de bananes, où là les autorités locales sont persuadées qu'il y a plus de cas d'endométriose liés à l'utilisation de ces pesticides ou perturbateurs endocriniens, etc. Il y a des études.
Ce serait quoi le lien entre les perturbateurs endocriniens, les pesticides et l'endométriose ?
On a longtemps cru que ça pouvait être une cause de déclenchement de la maladie. Il y a des études en cours, mais les premiers résultats tendent à dire que non, ça ne déclencherait pas l'endométriose, c'est-à-dire que l'endométriose ne serait pas due à une exposition aux perturbateurs endocriniens, parce que si on prend un certain nombre de femmes, qu'on les soumet à ces perturbateurs endocriniens, il n'y en aura qu'une sur 10 qui sera impactée par l'endométriose toujours. L'idée, c'est de dire que le perturbateur endocrinien, ou le pesticide, ou les produits chimiques, ne vont pas déclencher l'endométriose. En revanche, si l'endométriose est présente, il y aura peut-être une accélération du phénomène, une accélération du développement de la maladie avec des formes beaucoup plus sévères. Ça, c'est plus vers ça que tendent les études aujourd'hui. Mais bon, le propre d'une étude et de la recherche, c'est d'être en cours sur le long terme. Et voilà. Mais donc, non, pour répondre à ta question, un profil type, non. Qu'on soit brune, blonde, ronde, mince, grande, petite, et qu'on vive ici ou ailleurs, on est...
Alors j'ai encore une question, mais que font les pouvoirs publics ? C'est-à-dire un problème de santé publique aussi répandu qu'une maladie qui touche une femme sur 10, les femmes c'est la moitié de la population française quand même, donc une sur 10, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup ! Pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas parler à la télé, aux heures de grande écoute, en permanence, quoi, je veux dire, c'est vu l'ampleur.
Je suis bien d'accord avec toi, c'est pas faute de les solliciter, hein. Tu vois, je te disais que depuis, l'association a été créée en 2001, à partir de 2005, on a commencé à solliciter des rendez-vous, à écrire au ministère, on a vraiment éclusé l'ensemble des ministres de la santé qui ont pu passer... par le ministère. On leur demandait toujours la même chose, évidemment, la formation, la visibilité des parcours de soins, etc. On a été reçu par un ministre en 2019. Donc, tu vois, tout le temps que ça a pris. En 2019, on a eu le sentiment, c'était Agnès Buzyn à l'époque, on a eu le sentiment d'être entendue, d'être enfin comprise, et qu'il y a eu... Ouais, on avait le sentiment d'une prise de conscience. À partir de là, Agnès Buzyn donc a annoncé des mesures en faveur de l'endométriose. Il se trouve qu'elle a quitté le ministère juste après. Il se trouve que juste après, on a eu une crise sanitaire avec la pandémie Covid. Donc voilà.
Ah bon, on a une crise sanitaire. Tu vas apprendre quelque chose là. T'es passé à côté, dis donc.
Oui, je suis désolée. J'ai des petits scoops comme ça. Mais voilà, toujours est-il que du coup, l'élan qu'on avait senti à ce moment-là, il a été un petit peu freiné. Après, on comprend, hein. Encore une fois, l'endométriose n'est pas une maladie mortelle. Mais voilà, on s'est senti un petit peu ralentie et frustrée. Mais cette fois, je vais te livrer un vrai scoop. J'ai reçu hier soir à 21h une invitation de Monsieur le ministre Olivier Véran à une conférence, à une visioconférence, vendredi prochain, pour parler d'un plan national dédié à l'endométriose. Je n'en sais pas plus à ce jour, au moment où je te dis ça, mais c'est quand même une grande nouvelle, cette invitation reçue hier soir. Donc tu es la première à le savoir de façon officielle.
Activiste, ton premier scoop.
Voilà.
Merci beaucoup pour ça. Mais bravo, et bravo, mais merci sincèrement à toute l'association, à votre action. Là, cette fois-ci, je parle au pluriel pour toutes celles qui s'engagent à tes côtés, effectivement, au sein de cette association. Mais bravo pour ce que vous faites, parce que oui, ça fait 4-5 fois que je pose une question un peu naïve de mais pourquoi personne n'en parle et pourquoi personne s'y intéresse ? Et en sachant pertinemment que si les choses progressent, c'est en énorme partie grâce à l'action d'Endo France. Donc bravo et merci beaucoup pour ce que vous faites avec cette association.
Merci. Et c'est vrai que l'action, elle vient du terrain, elle vient des patientes en fait. Hein. Et tu vois, tu disais pourquoi on n'en parle pas à la télé, etc. C'est vrai, pourquoi ? C'est notre marraine Laetitia Milo en 2016 qui a créé un spot de 30 secondes qui a été diffusé sur TF1 pendant une semaine. À différents horaires, notamment le midi. D'autres chaînes l'ont repris, notamment France 5, C8, D8 à l'époque. Un petit spot de 30 secondes pour sensibiliser le grand public et dire que non, la douleur n'était pas normale. Mais voilà, merci à notre marraine parce que effectivement, ce spot, ça faisait partie aussi des demandes qu'on formulait depuis 2005. Quoi.
Donc la visibilité, la sensibilisation, ça c'est un énorme chapitre sur lequel vous êtes engagé depuis très longtemps. Et donc là, dans le cadre de ce plan de lutte contre l'endométriose, tu es convié à cette discussion avec le ministre justement pour, j'imagine, formuler des propositions. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que tu peux là tout de suite détailler quelques mesures ou quelques grandes impulsions qu'il faudrait que les pouvoirs publics donnent à cette lutte pour pouvoir la faire avancer ?
Pour moi, la chose la plus importante... ça reste toujours les médecins et le professionnel de santé qui vont recevoir une patiente. Le fait d'avoir intégré l'endométriose dans le cursus médical de second cycle, c'est très bien. Ça veut dire que tous les étudiants en médecine vont entendre parler d'endométriose et devront savoir la diagnostiquer et proposer une orientation. Ça, c'est déjà un point très positif. Mais voilà, le décret est paru en 2020, ça veut dire que sa mise en application et le fait que les étudiants seront réellement formés, il va falloir attendre encore quelques années. Il y a tous ces médecins qui sont en exercice aujourd'hui et qui continuent à dire à leurs patientes, parce que nous, les retours des patientes, on les a, hein, pour te donner une information, une indication. L'année dernière, donc en 2020, nos bénévoles ont répondu à peu près 50 000 mails de femmes, de personnes qui avaient besoin d'être orientées, soutenues, informées sur l'endométriose. Et parmi ces 50 000 mails, il y a souvent, encore trop souvent, des mails qui nous disent « Mon médecin ne me croit pas quand je lui parle d'endométriose. Il dit que c'est une maladie à la mode. Il dit que je veux faire comme toutes les autres. Il dit qu'on en parle trop, qu'on dramatise. Ou alors, on a ces toutes jeunes filles de 18 ans qui nous disent « Mais mon médecin me dit que je suis trop jeune pour avoir l'endométriose. Pourtant, j'ai tous les symptômes que vous décrivez. J'en peux plus. Je peux même plus aller au lycée une fois par mois. C'est l'horreur. Voilà. » Et le médecin dit « Non, c'est pas possible. T'es trop jeune pour avoir de l'endométriose. » Donc, il faudrait vraiment rendre obligatoire une formation continue pour ces médecins en exercice aujourd'hui, pour que tous soient au même niveau de connaissances et qu'ils ne passent pas à côté et qu'ils arrêtent de penser qu'on veut avoir de l'endométriose parce que c'est la maladie à la mode. On n'en veut pas. On leur donne, on leur laisse. Hein. C'est parce qu'il y a souvent des médecins qui disent « Ah, mais toutes les femmes veulent avoir une endométriose. » Non, on n'en veut pas vraiment.
Mais qui veut d'une maladie incurable ? Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, il n'y a pas de traitement, on n'en guérit pas en fait, on vit avec, c'est tout.
Voilà, on apprend à vivre avec. On peut, heureusement, il y a tout un tas de stratégies et de solutions pour vivre avec, heureusement. Mais non, mais on n'en veut pas tout simplement. Moi, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, mais prenez ma vie juste une semaine et on en reparle. C'est...
Voilà. Écoutez, je viens de passer une IRM de recherche d'endométriose, c'était pas le moment le plus fun de ma vie, hein. C'est quand même assez désagréable toutes ces conneries.
Bah, c'est ça, et encore, voilà, l'IRM c'est peut-être le moins désagréable, on va dire.
chut. je partageais entre j'ai envie d'en savoir plus et j'ai pas envie d'en savoir plus. Mais blague à part, effectivement, donc d'accord, il y a la formation des médecins pour une meilleure prise en charge, et côté patiente, en fait, côté femme qui se plaigne d'avoir des douleurs et d'avoir certains symptômes qui sont décrits, quel conseil ou quel message t'aimerais faire passer à sans doute là des femmes qui vont nous écouter et qui vont se dire est-ce que ça me concerne, parce qu'en fait c'est vrai que c'est pas normal peut-être d'avoir mal à ce point pendant mes règles.
Alors il y a beaucoup de femmes aussi qui nous contactent en disant « Oh là là, moi j'ai mal pendant mes règles et je pense que... Enfin, je veux savoir si c'est de l'endométriose, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce sujet ?» Il y a quand même un message important à faire passer, c'est qu'il ne faut pas, sans tomber dans les messages que j'évoquais tout à l'heure, il ne faut pas non plus dramatiser, c'est-à-dire que toutes les femmes qui ont mal au ventre pendant leurs règles n'ont pas d'endométriose et tant mieux pour elles. C'est physiologique hein, d'avoir un peu mal quand on a ces règles. Si la douleur, elle cède avec un simple antalgique de type paracétamol ou quand on prend un antispasmodique comme le Spasfon, si la douleur s'arrête, très bien, pas d'inquiétude, ça n'est certainement pas de l'endométriose. Hein. Donc cette douleur-là, on va la qualifier de normale. Elle est physiologique. C'est ça le test, hein, c'est-à-dire que si on prend un antalgique et que ça passe, tant mieux, il n'y a pas de souci à se faire. La question doit se poser quand la douleur revient chaque mois et que chaque mois elle est de plus en plus intense et qu'elle est vraiment invalidante, que le paracétamol, qu'on en a déjà pris 2, 3, 4 et pas plus de 4 parce que c'est pas bon pour le foie, et que là la douleur elle continue, elle ne cède pas et puis qu'on en vient à prendre des anti-inflammatoires, là il faut se poser la question. Et là il faut en parler à son médecin. Et si le médecin n'entend pas, quelle que soit votre région, contactez les bénévoles de l'association EndoFrance. Elles vous orienteront vers des médecins qui connaissent la maladie et qui sont en mesure de poser un diagnostic précis. Voilà, ça c'est le message. C'est un médecin qui vous dit « mais non, c'est pas ça, c'est pas normal sans faire d'examen, sans chercher, sans entendre simplement ce que la patiente dit, ben là, il faut essayer d'en voir un autre.
Yasmine, ça fait une demi-heure qu'on parle et on parle d'un sujet qui est à la fois très intime, qui touche à la santé et en même temps qui est éminemment politique. Et c'est bien ce qu'on conclut quand on se rend compte qu'effectivement un levier d'action de cette lutte, c'est la mobilisation du pouvoir politique, de l'action publique pour pouvoir faire avancer la lutte. J'aimerais savoir, dans ton parcours personnel, quel était ton premier souvenir que tu qualifierais aujourd'hui de politique ?
Mon premier souvenir que je qualifierais de politique. Là, tu me prends de court.
Alors, tu peux commencer peut-être par me dire, pour toi, qu'est-ce que tu mets derrière le mot politique ? À quoi ça renvoie ? C'est quoi ta définition de ce mot ?
Pour moi, ça ne s'arrête pas à politique, ces hommes politiques qui font les lois et qui les mettent en application. Pour moi, ça a quelque chose de l'engagement. Ça a quelque chose de... Ouais, c'est ça, c'est un engagement pour une cause. C'est un engagement pour une cause qui va peut-être aider à changer quelque chose, justement. Alerter ces hommes et ces femmes politiques que quelque chose doit changer. C'est peut-être ça que je dirais.
Ok. Est-ce que tu te souviens de ta première indignation, de la première fois que tu t'es dit « ça, c'est pas juste et je veux réagir ».
La première fois que j'ai ressenti quelque chose d'injuste, ouais, c'est, je crois que ça fait écho. Je dirais c'est la maladresse du système. J'ai appelé ça maladresse parce que effectivement, je vois, je vais pas dire que c'était malveillant. Mais c'est la maladresse du système traduit dans le monde hospitalier. Voilà, j'avais 23 ans peut-être. Oui, puisqu'on venait de me diagnostiquer. Moi, j'ai vraiment mis 7 ans à être diagnostiquée, donc la moyenne. J'ai vraiment commencé à souffrir de l'endométriose à partir de 16 ans. J'ai fait tout un tas d'examens de 16 ans à 23 ans. J'en étais à ma deuxième opération. Et on venait de m'annoncer que fallait peut-être que je me prépare à ne jamais avoir d'enfant. Et on m'hospitalise pour me faire encore une célioscopie pour chercher, puisqu'on ne trouvait rien à l'examen. Et dans ma chambre, une jeune fille qui était là. Donc, je commence à discuter avec elle en disant « Tu viens pourquoi ?» On avait sensiblement le même âge. « Tu viens pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et elle me dit « Je viens de me faire avorter. » Et moi, on venait de me dire « Potentiellement, vous n'aurez pas d'enfant. » J'ai rien dit, mais là, je me suis dit « Mais pourquoi ils me font ça ? Pourquoi ils me font ça ? C'est injuste. » Là, je me suis sentie blessée. Alors, j'en voulais pas du tout à cette femme, parce que voilà, l'avortement, c'est un droit. Merci Simone Veil pour toutes celles qui en ont eu besoin. Mais quand on vous dit « Voilà, vous avez une maladie, on ne sait pas trop ce que c'est, mais vous n'aurez certainement pas d'enfant. » Et puis qu'on te met à côté de toi une jeune fille qui a choisi... et qui en a le droit, mais qui a choisi d'avorter, ça, il y a eu comme un problème, quoi. Donc là, je me suis dit, le système est pas à l'écoute, on fait pas attention aux sentiments des gens, à ce qu'ils peuvent ressentir.
À t'entendre, je me rends compte que peut-être que tes premiers souvenirs politiques, comme beaucoup de gens, je pense, ils sont en creux, c'est-à-dire c'est là où il n'y a pas assez de politique. C'est-à-dire, par exemple, dans la gestion de la santé des femmes, qui est un sujet politique. Et ben ça manque, c'est-à-dire qu'on se trouve dans des situations comme celle que tu viens de décrire, parce qu'il n'y a pas de prise en compte de la dimension politique de la maîtrise de la fertilité, de la natalité, la maîtrise de son propre corps dans une société patriarcale qui contrôle beaucoup le corps des femmes, etc., etc. Ça me surprend pas que tu te souviennes pas de ton premier souvenir politique. Ça fait plus d'un an maintenant que je fais ce podcast avec Esther Meunier, et souvent c'est une question sur laquelle les gens butent. Alors souvent c'est un marqueur générationnel, hein, mais les gens répondent, dans une certaine génération, ils répondent le deuxième tour, Chirac-Le Pen, bien sûr.
Ah, mais
c'est
oui.
Leur premier souvenir politique.
Ah bah oui, mais... oui, oui, c'est clair.
Mais quand je te demande ta définition du politique, comme beaucoup de gens aussi, tu me réponds que ça n'est pas les élections. Finalement, quand on s'interroge soi-même sur ce qu'on met derrière le mot politique, ça n'est pas se déplacer tous les 5 ans, mettre un bulletin dans l'urne, c'est pas ça. Et pourtant, on n'a pas de souvenir de qu'est-ce qui est politique pour nous. Et je pense que ça témoigne d'une certaine déconnexion entre l'action citoyenne, l'engagement qu'on est très nombreuses à porter sur différents sujets, et la vision unique de la chose politique qu'on nous présente sur les plateaux de télé, dans les médias, qui sont invariablement des vieux mecs en costard qui disent la plupart du temps aussi de grosses bêtises en déconnexion totale avec nos quotidiens et nos luttes, et que je pense que ça ne contribue pas à favoriser l'engagement chez les gens.
Ouais, c'est vrai, tu as totalement raison. C'est vrai, je rebondis, effectivement, le deuxième tour Chirac-Le Pen, ça, évidemment que c'est un épisode qui a marqué beaucoup de personnes, notamment de nos générations, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a un décalage entre la politique au sens global, gérer un pays comme la France, et que je n'aimerais pas faire, hein, c'est vraiment, sérieusement, c'est, voilà, et notre action citoyenne quotidienne vue à l'échelle de chacun, effectivement, il y a un gros décalage. Ouais.
Moi, ce que j'aimerais comprendre dans ton parcours aussi, c'est quel est le déclic du passage à l'action ? Parce que comment tu passes de cette chambre d'hôpital, de ce moment, et en fait de situation d'impuissance où tu subis ce qui t'arrive, comment tu passes de cet état-là à celui de t'engager, d'agir, et d'être en position de pouvoir aider, pouvoir faire avancer la lutte. Qu'est-ce qui se passe, en fait, tu vois ? Quel était le déclic, à ton avis, dans ta vie, pour que tu passes de cet état à l'autre ?
Je crois que, tu vois, je te disais tout à l'heure que toutes ces femmes qui avaient transformé leur souffrance en force, mais je crois que c'est aussi ce qui m'est arrivé. Je vais pas m'apitoyer. C'est pas s'apitoyer sur son sort que ce que je vais faire là, mais j'ai vraiment, vraiment souffert avec mon endométriose, mais... Je crois que cette maladie et toutes les conséquences qu'elle a eues sur ma vie m'a permis de me connaître, de connaître mes limites à la fois psychologiques, morales et mes limites physiques. Et à partir de là, ça m'a ouvert une possibilité. C'est qu'aujourd'hui, je sais très bien, quand je dis stop, c'est stop, c'est que vraiment là, je suis au bout et je ne peux plus rien faire. Mais... Voilà, ça c'est transformer cette souffrance en force et de se dire que justement, c'est mettre après tout bout à bout et de se dire, ben voilà, cette première indignation que j'ai ressentie, cette autre injustice, aujourd'hui on appellerait peut-être ça des violences obstétricales ou des violences médicales, j'en ai vécu et je me dis, Mais voilà, tout ça bout à bout, il faut que ça change. Et comment ça peut changer? Il faut oser le dire et il faut oser dire aux femmes, il y a des choses qui ne sont pas normales et que vous avez le droit de ne pas accepter. Mais je pense que voilà, c'est ça. Ce déclic, il est venu la première fois où j'ai participé à un événement organisé par Endo France en tant que patiente, où j'ai vu ces visages autour de moi, où j'ai vu l'énergie et la volonté de la représentante régionale, et où je me suis dit, mais elle a raison, et c'est elle qui a raison, il faut... voilà, le soutien, il est important, j'en ai eu besoin, maintenant, à mon tour de le donner, quoi. Ça vient aussi parce qu'on a vécu, hein, je disais tout à l'heure, c'est avec ces tripes qu'on s'engage, c'est exactement ça. Je pense que plus on est marqué dans son corps et forcément dans son esprit par ce qu'on vit... plus on a envie d'en faire une force. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me retourne sur mon parcours. Voilà, à l'époque où j'étais incapable de faire quoi que ce soit, voilà, on m'aurait dit un jour, tu seras présidente d'une association de 2600 adhérents et tu animeras une équipe de 120 bénévoles. Je dirais, ouais, c'est ça, t'as raison. J'en serais pas capable, jamais de la vie. Mais bah, ouais.
Effectivement, l'histoire que tu racontes, je pense que c'est vraiment l'inverse de s'apitoyer sur son sort. C'est une histoire de résilience.
C'est ça. Tu sais, je dis souvent que l'endométriose, au début, je disais, j'ai dû renoncer à beaucoup de choses. C'est une maladie de renoncement. Beaucoup de femmes renoncent à beaucoup de choses. Mais finalement, le plus beau, et là, c'est aussi une grande ouverture, ça amène à une grande ouverture, c'est de dire, bah, c'est une maladie d'acceptation. Quand on accepte déjà la maladie, quand on accepte tout ce qu'elle implique, bah finalement, on vit bien. Alors bien, tout est relatif, hein. Je mets des guillemets, mais on vit avec. Voilà.
Dans ton parcours d'engagement, quand tu as commencé vraiment à prendre la parole, à t'engager sur ce sujet, est-ce que tu as eu des doutes parfois sur ta légitimité à agir ou à prendre la parole? Je pose la question parce que tu t'es quand même engagée sur un thème médical, et sauf erreur, tu n'as pas fait médecine. Donc en fait, je connais beaucoup de femmes qui auraient des doutes et des remises en question de leur légitimité à agir pour beaucoup moins que ça. J'aimerais savoir si tu as eu ces doutes, et si oui, comment tu les as dépassés? Sinon, pourquoi tu les as pas eus? Quel est ton secret?
Oh non. Alors je peux te dire que des doutes, j'en ai beaucoup, souvent et quasiment au quotidien. Mais finalement, je pense que je me dis que je suis une patiente et que si les médecins sont les sachants qui vont nous proposer tout un tas de techniques et de thérapies pour soigner l'endométriose, moi je suis la patiente qui vit avec et qui sait exactement ce que signifie vivre avec la maladie. Et ça, les médecins ne le sauront jamais, pour la plupart. Donc je pense que c'est dans cela que j'ai trouvé ma légitimité. C'est moi, j'ai l'endométriose, je vis avec et je sais ce que ça fait. Et c'est en ça que je me dis, tu as le droit de le dire, ça. Voilà.
Tu tires ta légitimité de l'expérience. Et merci beaucoup pour ce conseil, parce que je pense que ça peut concerner énormément de femmes. Il n'y a pas besoin d'avoir un master ou un diplôme pour s'exprimer sur un sujet qu'on vit. L'expérience, c'est une forme de légitimité.
C'est ça, tout en étant, tout en gardant quand même une certaine humilité, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'endométriose revêt plusieurs formes. D'ailleurs, on dit qu'il y a des endométrioses et non pas l'endométriose. Hein. On a une forme d'endométriose et chaque cas est unique. Et ce que je vis moi n'est pas identique à ce que peut vivre n'importe qui d'autre. Et la façon dont je vais réagir aux différentes approches de prise en charge ne sera pas la même que d'autres aussi. Et je pense aussi, et encore une fois très honnêtement, que ma légitimité, je la tire aussi de toutes ces femmes que je rencontre et que je remercie du fond du cœur pour tout ce qu'elles m'ont partagé, parce que leur expérience accumulée à la mienne, de toute façon c'est mon rôle en tant que présidente d'association, c'est de porter la voix des patientes, mais voilà, c'est d'elles aussi que je tire toute cette légitimité.
On ne peut pas plaire à tout le monde, et ceux qui agissent ont toujours tort. À quel moment tu t'es rendu compte qu'en défendant des idées, tu n'allais pas pouvoir faire l'unanimité et que tu allais forcément froisser des gens? Et en même temps, je te pose cette question avec une véritable interrogation derrière. Qui sont aujourd'hui tes adversaires idéologiques? C'est-à-dire, qui est contre le fait qu'on fasse de la sensibilisation et qu'on lutte contre l'endométriose qui touche une femme sur 10?
Je crois que le fait de faire de la sensibilisation, personne n'est contre. Après, c'est la façon dont la sensibilisation est faite qui peut amener... Voilà, Il y a différentes, je te disais tout à l'heure qu'il y a différentes théories pour expliquer l'endométriose. Nous, notre positionnement chez EndoFrance, c'est vraiment de diffuser une information qui soit validée scientifiquement. Depuis la création de l'association, on a des médecins experts à nos côtés qui vont relire tout ce qu'on peut écrire, par exemple, sur notre site internet, qui vont le corriger, qui vont nous apprendre. Ils passent du temps avec nous, ils nous forment. Voilà, on est accompagnés parce que l'information qu'on veut donner aux femmes, on veut qu'elle soit juste et fiable. Et on les interroge souvent, d'ailleurs, quand on a des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Ils nous invitent sur leurs congrès médicaux pour qu'on ait l'information la plus à jour possible sur la prise en charge. Enfin, voilà, c'est vraiment une relation, partenariat, confiance mutuelle, etc. Et souvent, on va nous reprocher d'être... je ne sais même plus quel terme on peut utiliser, mais... financé par les labos pharmaceutiques, soutenant les lobbying pharmaceutiques, etc. Alors que pas du tout. Hein. Les ressources de l'association, c'est 23 € à l'année multiplié par le nombre d'adhérents. Et c'est des dons qu'on a reversés essentiellement à la recherche, puisque depuis 2016, on a versé 200 000 euros à la recherche dédiée à l'endométriose. Voilà, tout ça sans subvention publique, sans quoi que ce soit. Donc, on touche pas d'argent des labos, ni même des médecins. Donc, voilà. Mais ça, c'est quelque chose, parce qu'on a des médecins dans notre comité scientifique et parce qu'on choisit de diffuser, de soutenir la parole des médecins, d'être en phase avec les recommandations qui ont été publiées par la Haute Autorité de Santé et le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens de France. Voilà, on nous dit souvent qu'on est des vendus, alors que pas du tout. Mais voilà, ça c'est quelque chose auquel on doit lutter souvent. Et puis aujourd'hui, il y a aussi cette histoire de théorie où on nous dit que la théorie que l'on utilise pour présenter la maladie est une théorie vieille de 50 ans et qu'on n'évolue pas, qu'on n'est pas capable d'évoluer et de savoir qu'il y a d'autres théories. Si, bien sûr, on en a beaucoup discuté avec les différents experts de l'endométriose. Bien sûr qu'il y a d'autres théories, bien sûr qu'on les présente sur notre site internet, mais elles sont hyper compliquées. Et puis encore une fois, il n'y a aucune théorie qui fait le consensus. Même les médecins, quand ils font des conférences grand public, ils présentent la théorie du reflux menstruel. C'est la façon la plus simple d'expliquer l'endométriose, d'expliquer pourquoi ça saigne dans le ventre. Et c'est surtout la théorie qui va concerner 80% des endométrioses. Donc je pense que même si on fait attention aux minorités, c'est quand même plus facile d'expliquer ce qui arrive à la majorité. Mais pour autant, on sait très bien quoi, qu'il y a autre chose.
Alors, je vais revenir sur le premier point du coup que tu développais pour voir si j'ai bien compris. Est-ce que parmi tes adversaires idéologiques, tu as des tenants des médecines alternatives, voire de traitements alternatifs, sans appeler ça médecine d'ailleurs. En fait, est-ce qu'il y a toute cette pression je l'ai beaucoup vu quand je travaillais chez Mademoiselle et qu'on travaillait sur ces sujets autour de la contraception. Il y a quand même toute une frange émergente de retour à la nature, en réconciliation de la femme avec sa féminité, et que toute intervention médicale dans tout ça, ça ne peut que perturber notre harmonie naturelle. Est-ce que c'est ça que tu es en train de m'expliquer ?
Oui, c'est tout à fait ça. Alors, dans la prise en charge de l'endométriose, il y a une place indéniable dédiée au traitement médical, il y a une place indéniable dédiée à la chirurgie, mais il y a aussi une place pour toutes ces techniques complémentaires. Ça, on le dit depuis toujours, depuis qu'on en a fait peut-être soi-même l'expérience. En tout cas, moi, j'ai testé un nombre incroyable de choses et je sais que chacune de ces techniques m'a aidée dans mon quotidien. Il y a une place pour ces techniques complémentaires et elles sont complémentaires. La prise en charge, elle est multimodale. À un moment, on a besoin du traitement, à un moment, on a besoin de la chirurgie, mais au quotidien, on a besoin de pratiquer, je ne sais pas moi, l'auto-hypnose, d'aller voir un ostéopathe, d'aller voir un kiné, de faire du yoga. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Et puis bien sûr, de changer son alimentation. Mais tout ça, c'est ce que j'appelle avoir sa boîte à outils à côté de soi, et à un moment ou un autre, on choisit dans ces outils ce qui nous convient, ce qui nous va bien, et encore une fois, ce qui va à l'une ne va pas à l'autre. De là à dire que faire de la méditation va faire réduire mon nodule d'endométriose, peut-être, j'en sais rien, j'ai pas testé sur cet aspect-là, mais ça peut être dangereux sur certaines formes d'endométriose. Il ne faut pas être extrémiste ni d'un côté ni de l'autre. Il n'y a pas que le médicament, mais il n'y a pas non plus que la technique douce. Il y a certaines formes d'endométriose, ça il faut le savoir aussi, c'est un tiers des endométrioses qui n'évolueront jamais. Ces femmes qui ont ces atteintes-là, c'est super pour elles, elles auront une vie simplifiée. Et effectivement, ces femmes-là, si elles ne veulent pas de traitement, si elles font attention à leur alimentation, si elles font attention à leur hygiène de vie, bah peut-être qu'elles stabiliseront leur endométriose comme ça, qui n'évoluera pas, et ce sera très bien. Et elles, effectivement, elles peuvent dire « mais moi, je ne prends pas de médicaments parce qu'il y a trop d'effets secondaires, je fais du yoga, je fais de la marche, je fais ceci, je fais cela, et ça va très bien ». Ça, oui, bravo. Mais ça, c'est un tiers des endométrioses, un tiers des cas. Ça veut dire qu'il en reste deux tiers des endométrioses qui vont évoluer, et souvent vers des formes relativement sévères. Et là, je pense qu'on ne peut pas passer à côté du traitement ni médicamenteux, ni chirurgical. Et bien sûr, les techniques seront complémentaires pour aider au quotidien, au confort quotidien, mais en traitement seul, ça ne suffira pas.
Merci beaucoup pour cette clarification. Effectivement, je partage totalement ton analyse sur la complémentarité de ces méthodes. Et ce qui me braque, c'est leur mise en concurrence, exactement pour toutes les raisons que tu viens d'expliquer. Je pratique beaucoup la méditation, les huiles essentielles, j'ai tout essayé, l'été, les machins, ok, super. Mais en fait, voilà, ça marche sur un certain niveau de douleur, etc. Et au bout d'un moment, ça ne marche plus. Et voilà, je ne néglige pas la science et l'avancée médicale pour autant. Donc merci pour cette mise au point. Yasmine, on arrive sur la fin de cette interview. Tu as choisi la question. Quelle est la chanson qui te remotive quand tu n'as plus la foi ?
Ah, alors, je n'ai pas trouvé une chanson, mais j'ai trouvé un thème, c'est le gospel. Voilà. N'importe quelle chanson de gospel va vraiment m'aider dans mes coups de mou, et je chante d'ailleurs dans un groupe de gospel et je suis très malheureuse depuis un an puisqu'on n'a plus le droit d'aller chanter et ça c'est difficile.
Ça va revenir. Avec qui tu aimerais dîner, vivant ou mort ?
Simone Veil pour la femme qu'elle a été déjà, pour ce qu'elle a vécu pendant la guerre, pour son histoire de jeune femme déportée. Et puis pour son action politique, pour son engagement, pour nous les femmes, Simone Veil.
De qui est-ce que tu aimerais apprendre quelque chose ?
Le Dalai Lama, parce que ben voilà, le Dalai Lama, toute cette philosophie bouddhique, cette philosophie de non-violence, de non-réponse à la violence, du lâcher prise, cette sagesse de se dire que voilà, tout est impermanent et que ben, ce que j'étais il y a une heure, ben, je suis différente déjà là tout de suite.
Effectivement, je pense que cette notion de lâcher prise quand on vit avec une maladie comme l'endométriose, ça doit être une connaissance indispensable.
Tout à fait, tout à fait.
Yasmine, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui sur Activiste. Pour terminer, où est-ce que je peux renvoyer tous les gens qui voudraient en savoir plus sur toi, sur ton parcours et sur l'association EndoFrance ?
Eh bien, pour EndoFrance, c'est très simple, c'est le site internet endofrance.org. Elles peuvent contacter les bénévoles régionales, nous écrire. On répond toujours, même si on prend un peu de temps, parce que voilà, on n'est que bénévoles. Et puis voilà. Et puis sur la chaîne YouTube EndoFrance, il y a plein de petites interviews, notamment des miennes. Donc si elles veulent en savoir un petit peu plus sur moi, elles peuvent m'écouter.
Et je vais terminer en te faisant une invitation à revenir quand tu auras pu t'entretenir avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être l'année prochaine d'ailleurs, pour faire un point sur où vous en êtes de cette action, de cette lutte. Activiste a vocation à se faire l'écho de toutes ces luttes pour faire progresser le vivre ensemble en réalité, parce que c'est ça le sujet au fond, et que quand on a un dixième des femmes qui sont atteintes d'une maladie invalidante, c'est difficile de pouvoir vivre normalement et ça entrave très directement notre capacité à vivre ensemble sereinement.
Merci beaucoup Clémence, avec plaisir.
Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs, dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.